Vous êtes sur RTL. RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mercredi 13 janvier, comment gagner la course de vitesse face aux mutations du virus? Faut-il s'inquiéter du variant sud-africain? Les vaccins sont-ils adaptés? Nous poserons la question à Odile Launay, infectiologue et membre du comité vaccin Covid-19. Un conseil de défense a eu lieu ce matin. 25 départements sont sous couvre-feu à partir de 18h. Cette mesure sera-t-elle étendue à toute la France? C'est l'une des pistes envisagées. Un kit pour rééduquer l'odorat de ceux qui ont été atteints par la maladie. C'est le coup de cœur de notre correspondant à Bordeaux aujourd'hui. Un kit mis en place par l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Dans RTL Midi aussi, 7 enfants de djihadistes de 2 à 11 ans rapatriés en France ce matin. Ils viennent de passer 2 ans dans des camps au nord-est de la Syrie. Comment supprimer peu à peu les passoires thermiques? Le gouvernement envisage une solution assez radicale. Un décret prévoit que les logements énergivores ne pourront plus être loués à partir de 2023. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
Vous repartez à la chasse aux nuages?
Eh oui, croyez-moi, il y a de quoi faire. Ça reste bien couvert sur la majeure partie du pays, avec de la pluie entre les Hauts-de-France et le Lyonnais, de la neige en quantité importante en montagne vers 800 000 mètres d'altitude. Je rappelle que la Haute-Savoie est toujours en vigilance orange neige, donc prudence. Et en plus, il y a un fort risque d'avalanche sur les Alpes du Nord. Sur l'ouest du pays, encore beaucoup de nuages, de faibles pluies éparses, mais c'est plus sec et moins chargé sur la façade atlantique. Et le soleil résiste entre les Pyrénées et la Méditerranée, ainsi que la Corse avec un vent fort. Les températures, 3 degrés à Metz, 10 à Paris, Alençon et Toulouse et 15 à Montpellier.
La question du jour sur RTL.fr, faudrait-il mettre en place un passeport vaccinal pour reprendre une vie normale? On attend vos arguments au 32-10. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour, effectivement, le passeport vaccinal pour aller au restaurant, à la salle de sport, au musée, au théâtre. Qu'en pensez-vous? Est-ce la meilleure solution pour reprendre au plus vite notre quotidien? On pourra revenir également sur les propos du président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy. Il y aura probablement, a-t-il dit, un certain nombre de mesures plus strictes à prendre. Est-ce que vous êtes favorable à un couvre-feu, par exemple à 18h partout en France? À tout à l'heure.
RTL Midi.
Il court le virus et il mute aussi. Alors que l'exécutif doit prendre des décisions qui vont encore impacter durement nos vies quotidiennes, les variants anglais et sud-africains du coronavirus sont surveillés de très près. Les autorités estiment que 1000 personnes en France ont été infectées par la version britannique. Qu'est-ce que ça pourrait changer, Sophie Orange?
Mais très clairement, ça peut modifier l'intensité, la sévérité des mesures prises par le gouvernement. Dans l'absolu, ce chiffre de 1000 peut paraître bas comparé aux 20 000 contaminations quotidiennes en moyenne, mais c'est la dynamique qui est importante. Aujourd'hui, ce variant anglais représente à peu près 1% des nouveaux cas. Mais si dans une semaine, c'est 5%, et si dans deux semaines, c'est 10%, là, c'est plus du tout la même histoire. Si on ne fait rien, les experts prévoient plusieurs dizaines de milliers de cas par jour liés à ce variant anglais dans quelques mois. Et là, c'est clairement un scénario à l'anglaise. Ce qui est sûr, c'est que de nouvelles études flash sur les cas positifs sont nécessaires pour mesurer la vitesse de propagation du virus anglais. Et là, dépendra un éventuel reconfinement ou pas.
Bon, et pour le variant sud-africain.
Alors là, on a moins de données, moins de certitudes. Il est très contagieux, certes. Selon un épidémiologiste sud-africain, il est déjà présent dans 15 pays, dont la France, avec 3 cas a priori. Mais le conseil scientifique est inquiet pour la métropole, mais également et surtout pour la Réunion et Mayotte, très liés avec l'Afrique du Sud. Pour le moment, un test négatif est exigé avant de monter dans l'avion. Air France propose par exemple 3 vols par semaine en provenance de Johannesburg. Mais dans tous les cas, variant anglais, variant sud-africain, la solution, c'est de maintenir plus que jamais les gestes barrières.
Merci Sophie Orange. Un nouveau conseil de défense a eu lieu ce matin. C'est une nouvelle fois une course contre la montre pour l'exécutif. L'hypothèse d'un reconfinement paraît écartée au profit d'un couvre-feu élargi. William Galibert, vous êtes à l'Élysée pour RTL. Tout est une question de dosage.
Oui, en fait, c'est encore un casse-tête de plus à affronter pour Emmanuel Macron. Ce matin, sur la table du président, il y avait donc ce rapport du conseil scientifique qui, en résumé, lui dit « ça pourrait être pire, ça n'est pas l'urgence absolue, mais, et vous venez juste d'en parler, mais les variants anglais, sud-africains vont tout compliquer dans les jours et dans les semaines qui viennent ». Une fois qu'on a dit ça, que fait-on? Le reconfinement national? La piste a été évoquée ces derniers jours, mais non, c'est trop tôt et l'exécutif juge que ça doit rester vraiment un ultime recours. Reste donc le renforcement du couvre-feu. Faut-il augmenter le nombre de départements qui devront tout boucler dès 18h? Il y en a déjà 25, leur liste va certainement s'allonger. Mais faut-il continuer comme ça, petit à petit, département par département, ou bien décréter un couvre-feu avancé pour tout le monde? C'est la principale question qui doit être tranchée. À quoi bon dessiner une France à deux vitesses, une sorte de gruyère, se demande un ministre qui plaide pour une décision nationale. Mais certains de ses collègues à Bercy, par exemple, pensent l'inverse, notamment pour affecter le moins possible l'économie. Et à la fin, Christelle, les seules choses qui ne changent pas, c'est le président qui va décider et c'est toujours le virus qui dicte sa loi.
William Galibert, en direct de l'Élysée. Un séminaire gouvernemental de rentrée aura lieu tout à l'heure, en début d'après-midi, pour fixer l'agenda des réformes des 6 prochains mois, un agenda hors Covid, où l'exécutif entend réaffirmer son utilité. Pour bien revenir sur ces mutations du virus dont on parlait tout à l'heure, nous sommes avec Odile Launay, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue et membre du comité vaccin Covid-19. Est-ce que le variant anglais vous inquiète vous aussi?
Alors, le variant anglais nous inquiète parce qu'il a une capacité d'infectiosité qui semble au moins 50% plus élevée que le variant actuel, voire plus, et donc qui risque d'augmenter de façon considérable le nombre de nouveaux cas.
Mmh. Mais est-ce que les vaccins qui sont actuellement sur le marché sont adaptés à ce variant anglais ?
Alors, pour l'instant, les premières données qui ont été communiquées laissent penser que la réponse immunitaire, les anticorps qui sont générés par la vaccination, sont actifs contre ce nouveau variant. Donc, c'est plutôt des bonnes nouvelles.
Quand même, hein.
Il faut attendre. Et oui, c'est rassurant. Il faut attendre d'avoir des données complémentaires, mais pour l'instant, c'est rassurant. Ça veut pas dire que dans l'avenir, on n'aura pas l'émergence de variants qui, eux, ne seront pas contrôlés par la réponse immunitaire conférée par le vaccin.
Et justement, pour le variant sud-africain.
Alors, on a moins de données pour le variant sud-africain. C'est pour ça que le professeur Delfrécy était plus inquiet hier soir. Pour l'instant, on n'a pas de données précises sur ce nouveau variant. On espère en avoir prochainement. Et il semble aussi qu'il soit susceptible d'entraîner plus de formes sévères
virus. Oui, lui, il serait plus contagieux comme le variant anglais, mais aussi plus virulent. C'est ça la différence?
Voilà, c'est ça. Il serait plus virulent. Ça veut dire qu'il entraînerait dans un nombre plus important de cas des manifestations sévères de la maladie.
Donc il faut être extrêmement prudent. Est-ce que la vaccination va nous permettre rapidement de gagner cette course de vitesse ?
Alors rapidement, c'est difficile de dire rapidement, puisque comme vous le savez, le nombre de doses qui sont aujourd'hui disponibles et qui permettent de vacciner sont encore en nombre réduit. On espère que la situation va changer à la fin du mois de janvier, comme l'a annoncé l'Agence européenne du médicament, le vaccin développé par l'Université d'Oxford et AstraZeneca est disponible, parce que là, ça sera un nombre beaucoup plus important de vaccins qui vont pouvoir être acheminés en France et la possibilité de vacciner plus facilement, puisque c'est un vaccin qui se conserve au frigidaire, donc qui permet de lever un certain nombre d'obstacles en termes de mise à disposition du vaccin et de vaccination.
Mais est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous savez à partir de quel moment on va vraiment pouvoir se sentir un peu plus en sécurité? On dit qu'il faut que 60% de la population soit immunisée. Ça veut dire que ça prendrait combien de mois, à votre avis, ça?
Alors, il y a deux phases différentes. Il y a une première phase qui consiste à vacciner et à protéger les personnes les plus à risque, hein, et c'est la stratégie de vaccination, réserver les doses qui sont aujourd'hui disponibles aux personnes qui ont le plus de risques de faire des formes graves, d'être hospitalisées ou de mourir de la maladie. Donc ça, c'est la phase sur laquelle on s'engage là de façon très active, bien sûr en fonction des doses disponibles. Mm-hmm. Et donc, bien sûr, ça va déjà permettre d'alléger un petit peu les
hôpitaux. La pression sur l'hôpital, ça, évidemment.
Voilà, ça, c'est un point évidemment capital. Ça va diminuer aussi, bien sûr, les risques de formes graves. Et on attend que ça. Et les personnes concernées sont évidemment impatientes de se faire vacciner. L'étape suivante, qui consistera à pouvoir immuniser une proportion suffisante de la population pour obtenir cette fameuse immunité de groupe, bien sûr, elle va prendre beaucoup plus de temps, puisque si on doit avoir 60% de la population vaccinée, ce qui est aujourd'hui l'hypothèse, on pourra pas avoir cette couverture vaccinale avant plusieurs mois.
À fin mi-2021, fin 2021 ?
Oh ben, ça va prendre plusieurs mois. Hein. Je crois qu'on peut dire que probablement ça va prendre de l'ordre d'une année. Vacciner 60% de la population avec les deux doses de vaccin, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Mais encore une fois, je pense que si on arrive à vacciner les personnes à risque, on pourra voir les choses de façon différente et être finalement libéré de ces confinements qui ont un poids majeur aujourd'hui sur notre vie à tous.
Très concrètement, si on est vacciné aujourd'hui, à partir de quand on est immunisé ?
Alors c'est les débats actuels, ce qu'on voit dans les résultats des essais cliniques, c'est que l'efficacité du vaccin, elle apparaît très précocement, hein, probablement dès la fin de la deuxième semaine après la première vaccination. Par contre, ce qui est également très clair, c'est que la réponse immunitaire en anticorps, elle est beaucoup plus importante après la deuxième dose de vaccin. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de ne pas s'arrêter à la première dose et de faire la deuxième dose, d'une part pour une efficacité maximale et surtout pour envisager que cette efficacité va être maintenue au moins sur le moyen terme, puisque pour l'instant, on n'a pas de données sur la persistance.
Merci.
Voilà. Donc mais la réponse immunitaire, il faut vraiment aller jusqu'à la deuxième dose pour avoir une réponse immunitaire optimale.
Les deux doses sont donc bien essentielles. Merci beaucoup. Merci Odile Launay pour toutes ces précisions, infectiologue et membre du comité vaccin Covid-19. Émission spéciale vaccin ce soir sur RTL entre 19h15 et 20h avec Thomas Soto. Vous pourrez poser toutes vos questions au 3210. Comment rééduquer les anciens malades du Covid qui ont perdu l'odorat ? On en parle dans un instant.
RTL Midi avec Christelle Rebière.
La perte du goût et de l'odorat sont souvent une signature du coronavirus qui atteint aussi le cerveau. Beaucoup de malades mettent des semaines, parfois des mois, à récupérer ses sens. À Bordeaux, des chercheurs de l'Institut des sciences de la vigne et du vin ont mis en place un kit olfactif. Et c'est le coup de cœur du jour d'un de nos correspondants, Philippe de Maria. C'est une sorte de rééducation olfactive.
Exactement, Christelle, j'ai appris ça ce matin. Les chercheurs de l'Institut de la vigne et du vin de l'Université de Bordeaux se sont donc penchés sur le problème car tout simplement des étudiants de l'Institut touchés par la Covid ont perdu le goût et l'odorat, ce qui est handicapant quand on doit déguster un vin. Et donc, ils ont pensé à créer un livret d'entraînement, de remise en forme, je dirais, des papilles gustatives et du nez à coups, par exemple, d'imagerie mentale olfactive. On imagine des odeurs, mais pas seulement. Et j'ai pu joindre ce matin le docteur Sophie Tempère. Elle est chercheuse en neurosciences.
Elle va décrire les exercices qu'ils doivent effectuer quotidiennement. Et puis, à côté de ça, on leur fournit aussi, on fournit ça exclusivement à nos étudiants, un kit d'odorants. On a essayé de varier les odeurs, donc il y a des huiles essentielles de fruits, de fleurs, d'épices, d'herbes aromatiques, qu'ils vont sentir tous les jours. Ils vont pouvoir évaluer l'évolution de leur perception.
Et ça fonctionne, les sens s'améliorent au fil de l'entraînement et le livret est consultable sur le site internet de l'Institut des sciences de la vigne et du vin.
Merci, génial cette rééducation olfactive, merci Philippe. L'économie repart doucement, l'activité accuse une chute de 7% en décembre par rapport à la situation d'avant-crise. D'après la Banque de France qui a sondé 8500 entreprises, c'est surtout dans les services, un peu moins dans l'industrie que ça repart. Mais l'automobile ou l'aéronautique sont encore à la peine, sans parler évidemment de la restauration à l'arrêt. La grande souffrance des étudiants et cette nouvelle tentative de suicide à Lyon, la deuxième en une semaine. Une jeune femme a menacé de se défenestrer du cinquième étage de sa résidence universitaire dans le cinquième arrondissement. Frédéric Perruche, vous êtes sur place pour RTL. Que s'est-il passé exactement ?
Écoutez, ce sont les cris de l'étudiante étrangère de 23 ans qui ont d'abord alerté et inquiété ses camarades de la résidence comme Sarah qui habite au même étage.
On entendait des cris tout le long du couloir. En descendant, j'ai vu qu'il y avait des étudiants qui regardaient vers sa fenêtre. Elle faisait que crier depuis un moment et qu'elle s'est même assise au bord de la fenêtre. Et c'est ce qui les a un peu inquiétés. En tout cas, ils ont appelé les pompiers, la police. Et c'est la police qui a pu, je pense, rentrer chez elle.
Alors que certains étudiants tentaient de lui parler au pied de la résidence, d'autres sont également intervenus devant sa porte au cinquième étage, explique Catalina, une étudiante roumaine choquée.
Il y avait deux jeunes qui frappaient à la porte et qui lui demandaient si ça se passait bien. Ils demandaient « Madame, vous allez bien ? Vous avez besoin de quelque chose ?» Ils ont vu qu'elle refusait d'ouvrir la porte. Et une fille a appelé la police. L'ironie, c'est qu'on ne se connaît même pas dans la résidence. C'est triste à quel point on peut être isolé, même si on habite tous dans la même résidence. Je suis choquée, je suis carrément choquée.
Des interventions qui ont sans doute sauvé la jeune étudiante étrangère, très seule, qui n'a pas pu rentrer chez elle depuis de très longs mois.
Frédéric Perruche, RTL Lyon. Une enquête ouverte contre le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, pour prise illégale d'intérêt. Dans sa déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, il affirme avoir touché entre 2016 et 2017 7 874 euros bruts de jetons de présence en tant qu'administrateur de la Société des autoroutes Paris-Normandie. Or, au même moment, il était aussi président du département de l'Eure. 7 enfants de djihadistes français rapatriés ce matin, ils étaient détenus depuis plus de 2 ans au nord-est de la Syrie sous contrôle des forces kurdes. Comme le prévoit la procédure, les enfants âgés de 2 à 11 ans ont été remis à leur arrivée aux autorités judiciaires. Émilie Beaujard.
Oui, et parmi eux, il y aurait 3 orphelins d'une même fratrie et 4 enfants que les mères ont accepté de laisser partir. Ils ont tous été remis à une délégation française venue rencontrer les autorités kurdes hier en Syrie. Les 7 enfants étaient retenus dans les camps de Roj et d'Alol où les conditions de vie sont effroyables, notamment en hiver. Face à ces conditions et l'absence de perspective, certaines femmes détenues là-bas ont donc accepté que leurs enfants rentrent en France. Ils sont tous arrivés aujourd'hui dans notre pays où ils ont été pris en charge par des médecins, des psychologues et des éducateurs. Ils vont désormais être confiés à l'aide sociale à l'enfance, le temps de voir s'ils peuvent éventuellement rejoindre de la famille proche. En 2 ans, 35 enfants français ont été ramenés de Syrie. Ils seraient encore 200 ou 250 sur place. Avocats et collectifs de famille continuent de réclamer leur rapatriement, mais la France reste sur sa doctrine, des rapatriements au cas par cas pour les enfants les plus vulnérables.
Émilie Beaujard. Une pause dans un instant des mesures drastiques contre les passoires thermiques.
RTL. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Nos logements chauffent le ciel. La France compte près de 4 800 000 passoires thermiques. Il faut donc contraindre les propriétaires à faire des travaux. MaPrimeRénov' vient d'être élargie à tous au 1er janvier dernier. Mais le gouvernement veut aller plus loin. Un décret paru ce matin au Journal officiel prévoit que les logements les plus énergivores ne pourront plus être loués à partir de 2023. Christophe Ponzio.
Oui, dans 2 ans, ce sera fini des locations dont la consommation énergétique excède les 450 kWh par mètre carré par an, c'est-à-dire, je vais vous aider, les logements à l'étiquette G, rouge vif, la pire hein, dans les diagnostics de performance énergétique. Les seuils qui interdiront ces passoires thermiques à la location seront ensuite abaissés en 2025, puis en 2028. Le président de la Confédération Générale du Logement, Michel Fréchet, s'en réjouit.
C'est une bonne nouvelle parce que les travaux qui vont être faits sur les logements, ça va contribuer dans la très grande majorité des cas à les isoler. Il y aura une diminution de la facture de chauffage par exemple.
En revanche, ces travaux obligatoires pour louer son bien ne seront pas indolores, continue-t-il.
Le coût, il est énorme pour ceux qui possèdent le bien. Ces gens qui n'ont pas d'énormes moyens vont devoir mettre la main au porte-monnaie. Certes, il y aura des aides de l'État, mais beaucoup vont se trouver en réelle difficulté financière.
Et cela risque de tendre le marché immobilier, estime David Benbassa, directeur général de la plateforme Bien Ici, qui regroupe tous les professionnels du secteur.
Ça veut dire beaucoup de demandes versus une offre moins importante. Donc ça veut dire plus de mal pour les locataires à trouver un logement qui leur convienne. Quand on raréfie l'offre, ce n'est jamais une bonne nouvelle pour les candidats locataires ou les candidats acquéreurs.
D'autant que les prix des loyers de ces futurs ex-passoires thermiques pourraient alors s'envoler.
Christophe Ponzio. En finir avec le jambon rose, un rapport parlementaire recommande de bannir d'ici à 2025 les sels nitrités, ces additifs utilisés dans la charcuterie et qui lui donnent justement cette couleur rose. Ils permettent d'allonger la durée de conservation mais sont soupçonnés de favoriser l'apparition de certains cancers. PSGOM, c'est le classico ce soir à l'affiche du Trophée des Champions. La rencontre sera bien diffusée sur 2 chaînes. Mais ensuite, que va-t-il se passer pour les rencontres de Ligue 1? La Ligue de football professionnelle comptait sur Canal+ pour sauver les clubs français du naufrage après le fiasco de Mediapro, mais le groupe réclame un nouvel appel d'offres. Alors Nicolas Georgerot, y a-t-il un véritable risque d'écran noir?
Alors si la situation perdure, c'est-à-dire en février, en mars, pourquoi pas, eh bien ce cas n'est pas à exclure. Pour le moment, la diffusion de la Ligue 1 est assurée à 80% par Mediapro jusqu'au 31 janvier. C'est garanti, mais ça vient vite tout de même. C'est ensuite que le flou s'installe. Mediapro peut-il prolonger sa présence au cas où? Un appel d'offres avec un nouveau cahier des charges peut-il être ficelé en aussi peu de temps pour trouver des repreneurs? Voilà quelques interrogations actuelles. La position de Canal+ est finalement un moyen supplémentaire de mettre la pression sur un foot français pris à la gorge. Quand certains présidents de clubs estiment que le championnat est valorisé à 800 millions d'euros, la chaîne cryptée souhaite 590 millions et veut garder la main. Il y a une échéance importante toutefois, le 7 février, OM PSG en Ligue 1, source toujours d'audience élevée.
Bon, et est-ce qu'on peut imaginer que certains clubs se retrouvent en dépôt de bilan ?
Alors, pour la Ligue, un tiers des clubs pro est à l'abri grâce à un actionnariat puissant, un tiers en difficulté mais avec une survie possible, un tiers en danger à court terme si les liquidités n'entrent pas dans les caisses. Les équilibres sont fragiles, on l'a vu avec le LOSC au moment de la vente récente. Si le nouvel acquéreur n'avait pas injecté 40 millions d'euros directement, le club aurait été en cessation de paiement ce mois-ci.
Merci Nicolas. Et on retrouve Pascal Praud, c'est l'un des sujets dont vous pouvez parler avec les auditeurs.
Exactement,
est-ce qu'ils ont peur de l'écran noir pour la Ligue 1 ?
Bien sûr, les auditeurs, effectivement, on pourra les interroger là-dessus. On pourra revenir sur le passeport vaccinal parce que c'est le sujet qui est le plus commenté pour le moment sur la page Facebook de l'émission, comme les appels qui se multiplient sur ce thème. Et puis on pourra revenir sur les propos du président du conseil scientifique, M. Delfraissy, qui annonçait probablement un certain nombre de mesures plus strictes à prendre. Quelles sont-elles ? Ces mesures plus strictes, est-ce que notamment vous êtes favorable à un couvre-feu un peu partout en France? Il y a parfois des conséquences à un couvre-feu qu'on n'imagine pas. Je pense aux adolescents et aux enfants qui en ce moment font du sport après 18h, puisqu'ils ne peuvent plus faire de sport le samedi et le dimanche, puisque les compétitions de sport collectif n'ont pas repris. Mais les clubs ont repris parfois l'entraînement. Si vous faites un couvre-feu à 18h, c'est pas anecdotique. C'est des gosses de 11, 12, 13 ans, etc. qui vont faire du sport aujourd'hui et qu'on va mettre chez soi et le week-end devant des écrans. Eh bien moi, ça ne me plaît pas beaucoup actuellement. Quel monde on prépare pour ces jeunes gens et ces jeunes enfants et adolescents ? Un monde sans sport ?
Bonne question en tout cas. Je sens que ça va susciter des appels, votre éditorial.
Pensez, on faisait du sport quand on était jeune.
Non, mais c'est vrai, c'est une des conséquences qu'on n'a pas abordées.
Mais non, mais écoutez, un corps sain dans un esprit sain ou un esprit sain dans un corps sain plutôt.
Allez, on parle de météo. Vous savez que près de 2000 automobilistes se sont retrouvés bloqués par la neige pendant 10 heures
aussi, je crois.
Sur l'autoroute A40. À l'année dernière, je ne me souviens pas.
Souvent,
hein,
ça arrive.
Enfin, sur l'autoroute A40, oui. Dans l'Ain, quand même, dans une région où il neige beaucoup, c'est assez rare. Est-ce qu'il a beaucoup neigé hier, Peggy Broche? Est-ce que ça va se calmer du côté de l'Ain et de la Haute-Savoie?
Eh ben non, parce que Christelle, ça continue. En plus, les chutes de neige vont se renforcer en fin de journée sur les reliefs de l'Est, aux alentours de 800 000 mètres et dès 500 mètres même dans certaines vallées savoyardes. La Haute-Savoie est d'ailleurs toujours en vigilance orange neige et attention au fort risque d'avalanche, donc soyez extrêmement prudents. Et puis, quand on n'a pas de neige, on a de la pluie, notamment entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté, jusqu'au Lyonnais. À l'ouest, encore beaucoup de nuages, juste quelques faibles pluies éparses. Et puis, en allant vers l'Atlantique, là, le temps est plus sec, avec quelques trouées possibles et pour un ciel dégagé et bien lumineux, direction l'extrême sud, encore entre les Pyrénées, la Méditerranée et la Corse, mais au prix d'un vent fort, une tramontane à 80 km/h jusqu'à 100 km/h sur les côtes varoises, tout ça sous des températures relativement douces, en tout cas pour la saison, sauf sur le nord-est et le centre-est, où l'air froid résiste, 3 degrés à Langres, 4 à Nancy, 6 à Lille et Lyon, 10 à Paris et au Mans, 14 degrés à Toulon et jusqu'à 15 à Ajaccio.
Bon, et demain, vous nous annoncez de la neige en pleine ?
Oui, alors il y en aura encore beaucoup sur les massifs de l'Est et avec la baisse des températures, en fait demain sur le Nord et le Nord-Est, on attend de la neige toute la journée entre les Ardennes, la Lorraine et l'Alsace en pleine jusqu'à 10 cm voire 15 cm localement d'ici la fin de la journée entre la Lorraine et l'Alsace. Donc soyez vigilants, prudents, surtout si vous êtes en voiture. Ailleurs, ce sera encore bien nuageux avec des pluies soutenues toute la journée entre le Nord, l'Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté et plus à l'Ouest, encore de faibles pluies éparses, beaucoup de nuages. Les éclaircies reviendront par la Bretagne et le soleil résistera entre les Pyrénées et la Méditerranée. Tout ça sous des températures stationnaires l'après-midi.
Bon, quand même un peu de soleil. Merci Peggy. À suivre le rappel des titres.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL.
Il est 13h01.